France Inter.
Le photographe animalier et réalisateur Vincent Munier est l'auteur de multiples ouvrages émerveillants, parmi lesquels Le Ballet des Grues avec Alain Salvi, Le Loup avec Philippe Huet et Julie Delfour, L'Ours avec Philippe Huet déjà cité, Arctique, La Nuit du Cerf, Tibet, Promesse de l'Invisible ou encore la magnifique monographie regroupant 35 ans de photographie parue dans la maison d'édition qu'il a fondée, Cobalan. Premier photographe à avoir reçu 3 fois le Eric Hosking Award du BBC Wildlife Photographer of the Year, je le dis avec mon meilleur accent, celui dont les images figurent aussi bien dans la presse internationale que dans les galeries, a donné son nom à l'école de Luce dans le Grand Est de son vivant, ce qui est aussi chic que pratique pour l'interview de ce soir. Le fondateur du festival Les Sentiers de la Photo a frayé avec des grues, des harfangs des neiges, des bœufs musqués, des ours bruns, d'ailleurs des bœufs puisque c'est au pluriel, des yaks, des lynx, des rennes, des loutres ou des blaireaux qui sont très mignons. Et je me demande pourquoi c'est une insulte blaireau, parce que j'adore les blaireaux, voilà. Bon, avec Laurent Geoffrion, il a réalisé les films Abyssinie, l'appel du loup et Ours, simplement sauvage. La Panthère des Neiges avec Maria Miguet, couronnée d'un César. Et avec Laurent Balesta, Antarctica, sur les traces de l'empereur. Il sort ce mercredi un nouveau film intimiste qui donne la parole à la faune en majorité vosgienne, intitulé Le Chant des Forêts. C'est tourné dans les Vosges, le Jura et en Norvège. Et c'est un documentaire qui nous plonge dans les forêts qui ont façonné notre invité. C'est aussi une exploration visuelle et sonore de la vie animale et de la transmission de la passion de la nature de père en fils sur 3 générations. Et figurez-vous que pendant que je vous parle, est visible jusqu'au 27 avril au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg, une exposition intitulée « Regardez l'art et la nature ». Un petit ouvrage est d'ailleurs paru à cette occasion et un gros pour accompagner le film. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter, la 20e heure, Eva Bester.
Qu'est-ce que c'était long. Bonsoir Vincent Munier.
Bonsoir Eva.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé?
Tout récemment, c'était cette pause que j'ai eue après cette longue promotion. Là, j'ai fait 2 jours, là, 2 week-ends, le week-end dernier, pardon, au soleil avec mes animaux. Ça m'a fait un bien fou.
Alors, qui sont vos animaux
de sortir,
au soleil?
J'ai des moutons, des chèvres. Et ça faisait aussi 2 semaines qu'ils étaient enfermés tellement le temps était pluvieux, donc plein de boue dans les Vosges. Il pleut quand même pas loin de 200 jours par an, quand même. Et là, voilà, il y a eu un petit moment tellement sympathique où on s'est baladé et ça sautillait de partout dans le pré avec un grand soleil. Et puis moi, j'ai eu un tunnel un peu médiatique ces derniers temps et ça m'a fait un bien fou, voilà.
Est-ce que vous voulez leur donner des noms?
Oui.
Et vous, est-ce que vous pouvez m'en présenter 2 ou 3?
Il y a Victoire, il y a Pidgey aussi, on avait parlé
Pidgey,
de...
Pidgey, c'est votre chien.
Oui, c'est ma chienne, exactement.
En hommage à Pidgey Harvey.
Voilà, ouais. Normalement, on devrait dire Pidgey, mais
oui,
on l'appelle Pidgey.
Mais moi, je dis Didji.
C'est le côté en anglais vosgien, Pidgey. Voilà.
Oui, enfin, merci de me rejoindre sur
elle
cette mauvaise prononciation.
Elle était aussi ravie de ce week-end ensoleillé et elle m'a un peu boudée.
Ah.
Et oui, 2 semaines à Paris, c'était long.
Mais elle a la truffe fraîche tout de même.
Toujours.
Je suis médecin de truffe.
Ouais, non, ça va. Truffe bien luisante,
ah,
bien noire
et
fraîche, c'est parfait.
Très bien. Bon, parlons d'autre chose. Vous avez un succès international, mais vous dites que vous gardez une démarche d'amateur, parce que dans amateur, il y a amour.
Oui, alors moi, ça me gêne un petit peu tout ça. C'est pas de la fausse modestie, mais c'est quand même un peu bizarre. Non, moi, j'aime bien me dire artisan. J'aime bien ça. Enfin, je trouve que ça manque un peu, ce côté. Et c'est ce qui manque peut-être dans mon métier de cinéaste et de photographe animalier, c'est de toucher la matière. J'aurais rêvé d'être artiste, être sculpteur ou être peintre, plutôt
que
photographe.
Les animaux, parfois.
Alors, c'est peut-être pour ça. C'est sûrement de mon grand-père qui était berger. Mais j'ai toujours eu des animaux chez moi. C'est des moutons. Là, j'ai des chèvres et des moutons, des poules. Oh, les poules, voilà.
Et ceux que vous prenez en photo, ceux que vous filmez, vous arrive-t-il de pouvoir les caresser?
Alors, non. Non, et j'ai pas trop envie.
Oui.
Ouais, vraiment, autant les domestiques, oui. Et il y a vraiment un lien fort. Autant les sauvages, je garde une distance et j'ai vraiment envie de m'effacer et de pas trop interagir avec eux. Ouais, pas du tout même.
Alors ça, on va y revenir à vos techniques d'affût, mais la question que je me suis posée quand j'ai vu tous les êtres que vous aviez photographiés et filmés, c'est est-ce que quelque chose vous fait peur ? Est-ce que quelque chose vous dégoûte dans la faune ?
Oh, le dégoût, alors là, non, c'est un mot tellement violent, non. Peur, oui. Oui, il y a des animaux qui me font peur, et tant mieux. J'ai eu des grosses frayeurs avec un ours, j'ai eu des grosses frayeurs, même des fois dans, quand on est à l'affût, caché, et je sais pas, il y a une couleuvre qui arrive au-dessus de nous, on l'entend pas et elle nous tombe dessus, c'est un sursaut on peut faire. Ah oui, j'ai eu aussi une peur, mais c'est marrant, je pense que c'est assez héréditaire ça. Ma mère avait peur des reptiles, et je pense qu'on garde ça. Et moi j'en ai pas peur, mais j'ai quand même une appréhension. Et j'ai le souvenir, on m'avait laissé tout seul pendant une dizaine de jours dans le Waterberg en Namibie.
Et attendez, pardon, vous aviez quel âge ?
Et là, j'avais 20 ans, j'avais une vingtaine d'années.
Parce qu'on vous a déjà laissé tout seul à 12 ans pendant des heures pour photographier votre premier chevreuil. Donc.
Mais là, on m'avait fait une proposition assez géniale de faire 3 mois en Namibie. Pour un CD-ROM, ça n'existe plus. Hein.
Mais ah moi, oui, je devais, les CD-ROM.
Ouais, je filmais déjà, j'avais une vieille caméra avec de la mini-DV. Et ce gars-là, Claude Lemel, il s'appelait, voilà, j'ai plus de nouvelles, mais enfin voilà. Et on était chez les Himba, oui. Chez les Himba, chez les Bushmen. Et dans le Waterberg, j'ai le souvenir d'un face-à-face avec un puff-adder.
Donc c'est un puff-adder ?
Oui, c'est la vipère heurtante. Et j'ai été terrorisé, quoi.
Alors vraiment. Pourquoi heurtante ?
Eh ben, je crois que c'est sa méthode, sa technique de chasse. Elle est à l'affût, et puis elle vient nous taper, ouais, je pense. Elle tape ses proies, en l'occurrence.
C'est terrifiant.
Et j'étais en face à face à quelques centimètres. Je m'approchais pour boire dans une flaque d'eau pendant l'ascension de la montagne du Waterberg. Et j'étais face à face à quoi ? À 30 centimètres de cette tête de serpent et de vipère, quoi. Donc oui, ça m'arrive d'avoir peur, ouais.
Vous buvez dans des flaques d'eau ?
Ben oui, oui, c'était de l'eau de pluie, la pluie de la nuit. Donc
et ça ne vous rend pas malade ?
Non, non. Ça m'est arrivé d'être malade en Afrique, mais là, non, en l'occurrence, non.
Vous buvez comme les animaux, vous baissez ou vous...
Je me baisse, oui, oui, absolument. Là, en l'occurrence, c'était ça. Oui, oui.
Parce que j'imagine une scène assez fascinante. Ouais. Bon, comment me sortir de là ? Vous êtes né à Épinal, quelle est votre image d'Épinal ?
Oh, mon image d'Épinal, oh là là, non, Oh non, j'en ai pas.
D'accord.
Là je sèche.
Très bien, bah écoutez, la musique arrive à la rescousse.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Vincent Munier, on va parler de votre dernier film dans un instant, mais j'aimerais d'abord retracer un peu votre parcours. Vous avez grandi non loin d'une forêt, dans un endroit que vous trouviez assez laid car très industriel. Là, je ne parle pas de la forêt, je parle de l'endroit où vous avez grandi.
Oui, c'est vrai. Il y avait la voie ferrée, on avait des usines qui fabriquaient des ressorts, des traverses de chemin de fer en béton. Donc oui, autour de la maison, ce n'était pas super sauvage et beau, finalement.
Donc la beauté, vous l'avez découverte dans la nature.
Oui. Franchement, à quelques coups de pédale, après, on avait quand même la forêt, la Moselle, qui est la rivière, qui n'est pas très loin de la maison. On y allait, à la pêche, au goujon. Enfin bref, on a passé tout notre temps là-bas. Donc, des fois, je me dis, c'est peut-être ça qui a aiguisé mon regard. C'est peut-être le fait d'avoir grandi avec pas mal de choses pas très très jolies quoi, autour de la maison.
Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur votre père, Michel, qui était professeur de micromécanique et naturaliste passionné, photographe amateur, militant écologiste avant l'heure, qui a défendu la forêt des Vosges ?
Ben oui, c'est marrant. Tout à l'heure, on a vu une archive dans les années 70 avec il était déjà avec sa grande barbe, son parka kaki. Là, il faisait partie un peu des écolos de l'époque et en train de râler contre les téléskis qu'on mettait en place dans les forêts vosgiennes. Donc, j'ai vraiment grandi avec tout un cercle d'écolos très engagés contre les pluies acides. On n'en parle plus trop, mais à l'époque, c'était un grand combat contre les ruisseaux qui étaient pollués, contre, des manifestations. Et lui, il faisait de la photo déjà pour faire des diaporamas. Donc, il avait ces vieux carrousels, là, les diaporamas dans les petits villages pour essayer de mettre en avant eh ben de les milieux, les petites chouettes chevêches à garder, les effraies, enfin plein de bestioles à préserver.
Alors à 12 ans, je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes resté plusieurs heures tout seul sous un filet de camouflage. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'un filet de camouflage ?
Alors, c'est juste comme un feuillage qui est un peu soit en tissu, en plastique. J'ai des petites pinces à linge, un sécateur, et souvent je me mets quatre petits bâtons et je mets ce filet de camouflage au-dessus. Ça me fait une micro-cabane, toute petite, hein, petite cabane, et je me glisse là-dessous. Et j'ai juste le téléobjectif qui dépasse. Une petite lucarne pour y glisser l'œil, pour voir, et voilà. Et là, on peut rester des heures.
Et alors, à 12 ans, vous avez pris votre première photo, une photo floue, la photo d'un chevreuil. Vous pouvez raconter comment ça s'est passé ?
Une photo que j'ai gardée toujours, c'est vrai qu'elle était précieuse. C'était tellement, en même temps, impressionnant, et puis de rester tout seul comme ça, pendant 2-3 heures. Mon père était à 1 kilomètre ou 2 de là, et c'est un peu d'angoisse, un petit peu, à 10-12 ans. Et puis voilà, on entend marcher des bêtes qui arrivent derrière moi, c'était ça, et j'entends leur souffle tout près, et d'un coup, il y en a une qui passe devant moi. J'osais pas du tout bouger, à peine respirer. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est quand même assez fabuleux, quoi. Quand on s'efface, on peut voir des bêtes aussi proches. Parce qu'il y a un côté très irréel, hein. On se dit, non, mais j'ai rêvé. Et avec mon vieux téléobjectif, c'était la diapositive à l'époque, j'ai pu figer ce moment. Un peu flou, mais j'ai trouvé ça tellement excitant. Et après, moi, je faisais que ça.
Est-il vrai que vous avez séché le rattrapage du bac parce que vous êtes tombé sur le meilleur moment pour observer un faucon pèlerin?
J'en suis pas très fier, mais oui. Mais oui, parce que au mois de mai-juin, c'est quand même là où la nature explose. Non, mais c'était pas simple, hein, pour mes parents, parce que j'étais toujours dehors et j'ai quand même loupé mon bac. Enfin voilà, je suis pas fier, mais 3 fois, quoi.
Et alors, vous avez commencé à voyager. Pour financer vos voyages, vous étiez ouvrier horticole et maçon. Et puis vous avez, je l'ai lu en préparant cette émission, travaillé comme photographe pour la presse, notamment l'Est républicain, où vous occupiez des photos de chiens écrasés et des accidents. Donc d'abord les animaux morts et abîmés, avant le vivant.
Non, mais c'est une manière de dire. Je pense que je faisais un peu de tout. C'est ça qui était assez intéressant dans la presse quotidienne régionale, à l'Est républicain, en effet. J'étais très timide, hein, le fait de passer autant de temps dans la forêt. Et donc, l'Est républicain, j'ai fait le premier emplacement. Le photographe me disait, il partait en retraite, il me disait, il faut que tu oses, il faut que tu te mettes sur le devant. Et c'était tout l'inverse de ma démarche, où moi je devais me cacher, quoi. Et j'étais hyper timide. Et donc, c'était une bonne école, hein. Ça m'a quand même permis, pour que ce soit les politiques, le foot, les faits divers. Et j'ai appris pas mal, hein, grâce à la presse quotidienne. Ouais.
J'ai dû prendre l'expression rubrique des chiens écrasés trop littéralement. Votre première publication, c'était Le Ballet des Grues avec Alain Salvier aux éditions Le Terra. Comment est-ce qu'on fait pour suivre des grues qui migrent de Scandinavie jusqu'à l'Espagne ?
Alors, là, j'ai attendu d'avoir le permis. Hein. Après, j'avais une vieille bagnole, un vieux break, et je dormais dedans. Et j'avais 18-20 ans, et je suis allé en Scandinavie, en effet, en Suède. Et puis, j'ai suivi jusqu'en Espagne, en Extremadour, à Gallo Canta. C'est rigolo, le coq qui chante. Et donc, j'ai fait mon premier livre avec Alain Salvi, qui est un spécialiste de l'espèce. Ouais. Mais c'était un beau voyage. Et pourquoi ? Parce que cet oiseau me fascinait. Ma chambre était sous le toit de la maison. J'avais un Velux. Et je dormais souvent le Velux ouvert. Et j'entendais des fois, quand les grues migrent, ça fait comme des grenouilles qui sont sur le toit. Elles font, j'ose pas l'imiter, Non, mais... Enfin, je le fais très mal. Et donc, les grues passaient. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cet oiseau-là, quoi ? Et ça me fascinait. Étant gamin, je me dis, mais je voulais en savoir plus. Ensuite, je les ai vues, elles étaient tellement belles, tellement graciles, elles dansent énormément. Et voilà, j'étais séduit. Et je me suis dit, il faut que je les photographie.
Et le loup, alors ? Puisque vous dites que le loup n'attaque pas. Et que le loup est... Finalement, on projette sur lui. Les passions humaines se déchaînent en pensant au loup. Mais pourtant, il y a eu des loups dangereux, non ? À certains moments de l'histoire, on se disait qu'il fallait absolument s'en débarrasser.
Alors oui, c'est ce que certains, les anti-loups, disent en disant bah, « Les ancêtres ont tout fait pour s'en débarrasser, vous allez pas, on va pas les revoir à nouveau. » Non mais attendez, on a fait quand même beaucoup de bêtises. Hein.
Oui,
nos ancêtres, tout n'était pas...
Non.
On clouait des chouettes effraies sur les portes des granges pour faire partir les mauvais esprits à une époque.
On clouait des êtres sur des croix.
Aussi, non, non, que c'est pour ça. Le loup, c'est un super... c'est un signe... assez positif, hein, le fait qu'ils reviennent. Et puis naturellement.
Et le loup n'attaque pas l'homme.
Et le loup n'attaque pas l'homme, hein, franchement, vraiment. Autant l'ours, il peut y avoir encore, pas chez nous, pas en Europe de l'Ouest, mais l'ours, il peut y avoir des petits soucis, autant le loup, franchement, non. Vraiment pas. Il y a eu des récits, en effet, sur les champs de bataille, ou des hommes blessés, pourquoi pas, ou mourants. Mais je peux vous assurer que le loup... à aucun moment j'ai eu une crainte ou une angoisse. Il y a un côté presque... moi, j'aime pas trop faire d'anthropomorphisme, mais il y a un côté presque... une curiosité réciproque, quoi. Il y a presque un côté pote avec les loups, vraiment. Et moi, je l'ai encore vu en Arctique, dans le Grand Nord, où c'était flagrant, quoi. Ils me cherchaient, ils avaient besoin d'une présence humaine, et c'était plus par... il y avait un autre être vivant, ils voulaient être en notre compagnie.
Et alors les ours que vous venez d'évoquer, on m'a raconté à plusieurs reprises qu'il y avait des techniques pour essayer d'échapper à la mort ou à la dévoration quand on se retrouvait face à eux. Il y a les ours bruns, je crois que c'est l'ours brun qui a donné le nom de votre maison d'édition, Cobalan.
Cobalan, oui, ça veut dire ça en évène, oui, absolument.
Est-ce que vous pouvez dire quel évène, s'il vous plaît?
Alors les évènes, ce sont des peuples nomades qui vivent au Kamchatka, là où j'ai passé pas mal de temps.
Dans l'extrême-orient.
C'est une péninsule, voilà, l'extrême est de la Russie, vraiment une espèce de gros doigt enflé qui protège la Russie des États-Unis. Et c'est une péninsule qui a été interdite, d'accès jusque dans les années 95, je crois. Et c'est un paradis, parce qu'il n'y a que des ours, quoi. Petropavlovsk est la capitale. C'est une base russe avec des sous-marins nucléaires et il n'y a quasiment pas de route et tout le reste c'est des lacs, des toundras, des montagnes, des rivières et des sentiers qui sont façonnés par les ours depuis des milliers d'années. Et moi c'est un rêve d'aller là-bas et j'ai passé un peu de temps avec les peuples premiers là-bas, les évènes. Il y a les nénettes un peu plus haut et Cobalan, ils aimaient beaucoup, j'aimais bien la résonance de ce mot, quoi, Cobalan. Et j'ai donné le nom de ma maison d'édition que j'ai créée en 2010, voilà, qui veut dire l'ours. Et en effet, là-bas, l'ours peut attaquer, c'est certain.
Il y a des techniques, il y en a qu'il ne faut pas regarder, il y en a où il faut se coucher, il y en a où il ne faut pas bouger, non ?
C'est tellement dur, en fait, parce qu'en fonction de la situation, je dirais qu'il n'y a pas franchement de règles. Courir, il faut mieux éviter.
Oui.
Il court beaucoup plus vite que nous. Et il y a le côté proie qui s'échappe et on le rattrape. Se lever comme en position fœtus, c'est peut-être encore ce qu'il y a de mieux.
D'accord.
Faire du bruit, je suis pas certain. C'est des fois, ça les énerve plus qu'autre chose. Mais c'est très dur. Hein. Faut voir comment... moi, quand j'étais attaqué par un ours, il était vraiment... j'étais prisonnier de lui. Il me tournait autour.
Attendez, vous avez été attaqué par un ours?
Oui, au Kamchatka, où j'étais seul.
Vous dites ça d'un air vraiment très détendu.
Oui, mais ça peut arriver. Mais c'était important parce que j'en avais croisé plein. Et à chaque fois, j'étais trop sûr de moi. Et celui-ci, il m'a vraiment tenu tête. Et donc, je faisais comme un cercle avec mes affaires en lui disant, je lui parlais, hein, et je lui disais, lâche, c'est chez moi, tu rentres pas. Et puis, il respectait pas ce que je lui disais, évidemment. Donc, il est, jusqu'à un moment, il roulait des épaules, il tapait dans les myrtilles, il s'approchait de moi. Et heureusement, j'avais on appelle ça un firebanger, c'est comme un espèce de gros pétard qui est un fumigène. Et heureusement, je l'avais, parce que parfois, je me baladais, je le laissais à la tente. Et j'ai pu lui mettre sur le nez en criant très, très fort. Et en tapant des pieds sur le sol, et j'ai vu son cul. Donc c'est la seule fois où il me faisait plus face depuis une demi-heure où il m'était...
Cette histoire de
mais tout ça pour dire, mais j'aime pas trop en parler, parce qu'après tout le monde dit « Ouais, c'est des bêtes féroces ». Mais non, elles peuvent tuer. En l'occurrence, Michio Oshino, qui est un photographe dont je respectais énormément le travail, qui restait 2-3 mois là-bas, s'est fait tuer en 96, là-haut. Et c'est même la raison pour laquelle j'ai voulu continuer un peu son travail. Mais c'est des accidents, c'est très rare, franchement. Et on focalise un peu là-dessus, et je trouve que en Europe, par exemple, non, il y a quasiment pas d'accidents.
Je reste encore marqué par le film de Werner Herzog, Grizzly.
Alors moi, j'ai pas apprécié ce film.
Ah oui?
Ouais, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal parce que les protagonistes, ils étaient vraiment complètement barrés. Il y avait vraiment
un couple,
un ancien légionnaire et qui avait besoin de se réconcilier avec le sauvage. Et puis il leur parlait, il leur tapait dessus. Enfin, il les caressait. Il y avait un contact qui était beaucoup trop proche. Et il m'a pas plu ce film. Ouais.
Vous avez passé un mois en solitaire dans l'île d'Ellesmere, dans des conditions de froid extrêmes, au Nunavut au Canada. C'est la dernière île avant le pôle Nord, à 82 degrés de latitude Nord. Et alors, dès le premier jour, il faisait moins 47 degrés. Vous dites que c'était excitant, grisant, angoissant. Ça revient souvent dans vos interviews. Vous êtes à la fois grisé et angoissé.
Ouais, c'est bizarre, hein, parce que je suis pas du tout masochiste. Mais j'aime bien me mettre un peu en difficulté. Mais là, bon, là, c'était ce que j'ai fait de plus fort, de plus engagé quand même. J'ai pas envie de fanfaronner, mais c'est vrai que tout seul, ce qui était assez surprenant, c'est quand c'est des petits avions qui ont des skis, on les appelle les tunauteurs, qui atterrissent sur la banquise. Donc, je me suis greffé sur un groupe de gars qui allaient, des aventuriers qui allaient au pôle Nord. Et c'est vrai, quand on a les paysages qui défilent, et pendant des heures, et il y a rien, on sait qu'il y a aucun village, il y a plus d'humains, et on se dit mais qu'est-ce que je vais faire là-bas, quoi. Et ils nous laissent là tout seuls, et eux ils repartaient vers le pôle Nord.
Qu'est-ce que vous mangez dans ces cas-là?
Ah ben je fais fondre la glace pour avoir de l'eau chaude et je mets ça dans mes lyophilisés, dans la dry food, ouais. Et j'ai tout ce qu'il faut pour là je suis resté 3-4 semaines. Mais avec deux petits traîneaux que je tire. Mais c'est génial. Après, c'est le froid qui était très, très dur la première semaine.
Vous avez déjà été brûlé, vous avez dû aller aux urgences à cause de certains froids.
Oui, ça m'est arrivé. Bah, quand on y retournait, je voulais faire un film. Et puis on a eu un accident. Je suis retourné avec Yannick Gentil, un copain qui aime bien les aventures un peu extrêmes. Et là, oui, on a eu un souci de lui s'est gelé le gros orteil. Il a dû se faire amputer. On est rentré rapidos. Mais ça n'empêche pas. Il veut qu'on y retourne. Voilà, pour se faire amputer.
Est-ce que ces orteils sont d'accord? Non, je suis pas sûre.
Pour retrouver un équilibre. Non, mais ça, oui. Alors, on est resté plus, du coup, que 2 semaines. On a eu quelques soucis à cause de ça. Ouais, les jambes, les chairs étaient gelées. Mais quand il fait moins 20, moins 30, c'est assez agréable.
Ah bon?
Ouais.
Alors, j'aimerais qu'on imagine qu'on se trouve en Arctique et qu'on parle des loups, puisque souvent aussi, ce qui revient, c'est que parfois, pour apercevoir les premières créatures que vous cherchez, vous vous y reprenez à plusieurs fois et vous faites plusieurs voyages. Et la fois où 9 loups sont arrivés autour de vous, un bœuf musqué était en train de charger votre tente. Et je vous laisse raconter la suite.
Un bœuf musqué? Non.
Non?
Non. C'était, c'est que les.
Prenant
les
loups... ma tente pour une proie, un bœuf musqué probablement.
Ah, les loups ont dû voir que, ont dû imaginer que j'étais comme un bœuf musqué.
Ah
solitaire.
Oui, bien sûr.
Et en fait,
ils ont pris
fondu.
Votre tente pour un bœuf musqué.
Ils ont vu un point noir. Et comme c'est leur principale proie, ils ont, la meute a fondu sur moi directement, alors que j'étais au milieu de la banquise, ouais.
Et donc, ils vous ont encerclé, ils vous ont mordillé les bottes.
C'était le moment que j'attendais depuis longtemps, parce que, comme vous dites, avant j'y étais allé, je ne les voyais pas. J'ai emmené mon père aussi une fois.
Les fantômes de la toundra.
Les fantômes de la toundra. Mon père est venu avec moi pendant un mois, et on n'a vu que des traces. Et là, c'est en 2015 où j'étais seul, et en effet, c'est le 8e jour de l'aventure, ces loups m'ont trouvé. Et ils sont restés avec moi une bonne heure, à me tourner autour de la tente. C'était assez extraordinaire.
Et vous ne bougiez pas?
Ah ben moi j'étais comme un fou et je faisais des photos. J'étais à plat ventre. J'étais vraiment tellement heureux. Tellement heureux. J'attendais ce moment depuis tellement longtemps. Et à un moment, je les vois qui repartent en file indienne. Et là, je les ai suivis et j'étais en chaussons de tente. Des chaussons en duvet, des espèces de grosses bottes. Et j'ai fait semblant d'être blessé. Je boitais. Ils se sont arrêtés, ils sont revenus vers moi. C'est incroyable, hein. Leur instinct de... Ouais.
C'était pour vous aider ou pour vous manger?
C'était plutôt...
ça dépend.
Plutôt pour une bête blessée, ça les intrigue et ils reviennent voir.
Ah oui, d'accord. Bon. Chers auditeurs, nous allons entendre le bruit d'un animal, essayer de deviner ce dont il s'agit.
No.
Vincent Munier, qu'est-ce qu'on entend?
Ben là, c'est le brame du cerf. Hein.
Oui, sur la qui accompagne la nuit du cerf.
Oui. Oui, oui,
que vous avez sorti avec des textes de Marc Namblard et Yves Pacalet et des enregistrements de Marc Namblard.
Absolument. Et puis je peux vous faire un petit conseil de lecture, La dernière heure de Maurice Genevoix, qui parlait tellement bien de ces moments. Et bah oui, c'est notre rendez-vous fin d'été, début d'automne. Il se passe pendant l'été vraiment la forêt est assez silencieuse, à part quelques insectes, mais il n'y a plus de chants d'oiseaux. Et là, de nouveau, la forêt résonne en septembre. C'est fabuleux.
Alors, et là, je n'ai pas le temps d'aborder toutes vos aventures, mais il y en a qui sont fabuleuses. Dans le pôle sud, au Tibet, La Panthère des Neiges, qui est quand même un livre de Sylvain Tesson que vous avez adapté, alors que vous faites partie de ce livre comme personnage. J'avais prévu d'en passer un extrait, mais je ne vais pas le faire. Et si j'ai juste une question... Vous avez été le parrain du dernier numéro de la revue Cometa, qui est fabuleuse, et je ne dis pas ça parce que j'y contribue. Et dedans, on lit que vous avez eu le César du meilleur documentaire pour La Panthère des Neiges, et vous l'avez mis dans votre poulailler.
Ah mince.
C'est vrai?
J'ai dit ça.
Oui.
Mais oui, oui. Mais bon, comment dire? Non, mais oui, il a été dans le poulailler pendant un peu plus d'un an. Ouais.
Ah, mais il n'y est plus.
Il n'y est plus. Je l'ai remis parce que je voulais l'offrir à justement l'école de Luce.
Ah oui, qui porte votre nom.
Vous avez fait référence en début d'émission. Mais oui, il a fait un petit séjour dans le poulailler. Ouais. Les œufs n'ont pas changé de goût, mais.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
Le monde sauvage, c'est un monde invisible, mais qui laisse des traces. Les bêtes, on les voit pas souvent. Et c'est très furtif quand tu vois une espèce sauvage. T'attends longtemps, t'espères. Un jour, tu la vois, c'est quelques instants. Et tu dis, j'ai rêvé. T'y crois pas, comme un mirage.
C'est quoi ton meilleur souvenir?
Moi, mon meilleur souvenir... Oh, c'est difficile, il y en a tellement. Il y a beaucoup, beaucoup de souvenirs.
Un seul, t'as droit qu'à un seul souvenir.
Un seul souvenir fantastique, c'est quand j'ai vu pour la première fois le Grand Tétras. C'était fin des années 60. Et on descendait dans une forêt, il y avait de la neige, il y avait plus de 2 mètres de neige. C'était pour moi devenu comme une cathédrale, avec des grands fûts, des grands sapins. Il y avait de la glace, de la neige partout. Il y avait du brouillard, comme un rideau. Et d'un seul coup, il y a eu un petit coup de vent. Le rideau s'est ouvert, mais pas longtemps. Et là...
C'est votre père qu'on entend, Vincent Munier. Il parle à votre fils Simon, dans votre film « Le chant des forêts ». Et alors, le grand tétras, c'est la créature qui est le fil rouge de tout le film. Mmh. Et il y a une scène absolument fabuleuse où on voit simplement un bec dépassé d'un tronc d'arbre, un bec qui ne peut même pas se fermer intégralement et qui a un claquement absolument fabuleux. Et ce n'est pas le bec qui s'entrechoque, qui
voilà,
claque
qui
pas du
bruit.
Tout.
Ouais, ouais,
ça
absolument.
Vient de la gorge de l'oiseau, en
ça
fait.
Ça vient de la profondeur de sa gorge. C'est complètement fou.
Ah
comme
oui, c'est
son.
Fou.
C'est vraiment un son préhistorique quasiment, d'un autre âge. Hein. Moi, j'adore.
Ou des castagnettes.
Et des castagnettes. Et puis, ouais, c'est, il fait ça, il fait ses claquements de bec, mais c'est même pas des claquements. Ça vient du. Ça fait. On l'a entendu, il accélère. Après, c'est le coup du bouchon. Et après cette phase, c'est la phase de cisaillement où il fait. Et là, il est sourd et aveugle. Et souvent, c'est là, quand j'étais gamin, et puis. Que tu pouvais faire un peu de bruit dans l'affût. Soit faire une photo, soit te retourner dans le duvet. C'était un peu le 1, 2, 3 soleil, quoi. C'est génial. Il est fascinant, cet oiseau. Et il a bouleversé la vie de mon père, et pour le coup, la mienne. Et je continue chaque printemps. Maintenant, il n'y en a plus chez nous, mais je vais en Norvège.
C'est lui
qui
vous a appris.
Une petite cabane en Norvège, et je vais passer. C'est le bivouac, c'est que c'est la fin d'hiver, début de printemps. Il y a c'est le réveil de la nature, et puis tu dors, tu es au contact avec la terre, tu dors sous ton sapin. C'est tout des. C'est comment dire, il manque l'odeur là dans ce film, mais c'est des événements qui sont tellement puissants, avec tous ces acteurs, quoi, que ce soit la petite chouette de Tengmalm, la bécasse qui passe, tout ça c'est...
Vous c'est les mettez au générique d'ailleurs.
Oui, au même niveau que les hommes, hein. C'est pas mal, hein. Faut revenir à ça je crois.
Un générique très très impressionnant, que j'avais noté en intégralité, mais peut-être que je le citerai tout à l'heure. Est-ce que vous avez des conseils contre le froid? Parce que vous affrontez tant de conditions hostile. Vous dites d'ailleurs que pour vous, on pense souvent qu'il faut une bonne condition physique pour faire ce que vous faites, mais vous dites que non, c'est surtout dans la tête que ça se passe.
Ah ben ouais, je suis persuadé de ça, vraiment. Je vous racontais de l'épisode avec mon ami là qui s'est gelé le gros orteil, Yannick. Il est beaucoup plus aguerri que moi, c'est un sportif, un grimpeur, un plongeur, enfin bref, et il est complet. Et en Arctique, on tire des traîneaux de 100 kilos, quoi. Moi, je vois je suis animé par des lièvres arctiques. Des fois, on en voyait 30, 40 ensemble.
Ils changent
des lapins
de couleur
blancs.
De pelage, les lièvres arctiques.
Absolument.
C'est incroyable.
Ils sont blancs en hiver.
Et marrons.
Mais c'est complètement fou. Et ils sont rassemblés ensemble. Des fois, t'en as 100, 200, 300. T'as une sensation que la montagne bouge. En fait, c'est tous les lièvres arctiques qui courent ensemble. Tout ça pour dire que moi, je les vois de loin. Je sens plus mon traîneau. Je pars comme un fou. Tellement je suis animé, passionné par ça. Et Yannick galérait à me suivre de temps en temps, alors qu'il est beaucoup plus... c'est un grand sportif. Donc je pense que c'est vraiment le mental, c'est clair et net. Et même pour le froid. Mais je crois que c'est comme dans toute passion, on se surpasse complètement. Et on oublie le froid tellement on est saisi, on se dit purée, la bête peut arriver, quoi. Donc on est là, on est passionné, on oublie le... Ce qui peut être dangereux pour le coup, hein, des fois, ouais, bien sûr.
Donc pas de conseils pour le froid?
Ben c'est les extrémités le plus dur.
Parce que votre père ne met pas son bonnet jusqu'aux oreilles? Je l'ai remarqué.
Vous avez vu qu'il met aussi ses mains comme ça. Il fait un peu pour accentuer le bruit, pour recommander.
Ah oui. Ouais. Et votre fils a une sorte de parabole aussi pour mieux entendre.
Absolument, ouais. Ça fait comme un zoom. Ça zoom le son vers le micro, comme un téléobjectif.
Et justement, les micros, puisque les bruits qu'on entend dans le film sont absolument fascinants, ils sont très importants, parfois même plus que les images, dites-vous. Comment placez-vous les micros? Quel est le dispositif?
Alors, ce sont des omnidirectionnels, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils prennent vraiment tous les 360 degrés, et on les pose, donc stéréo, ils sont vraiment de bonne qualité, et on les pose à des endroits stratégiques, là, près des places de champ pour le grand tétras, le brame près des endroits où ils viennent se frotter, enfin, quand il faut être un peu naturaliste, et après on sait où les poser, et on vient les récupérer 2 jours après. Et j'adore, moi, des rochers, regarder les sons et on voit tout de suite les ondes sur un logiciel, on voit des sonogrammes. Et quand on connaît un peu un dessin, on sait tout de suite quelle espèce c'est, quoi. Là, c'est le brame, ça, c'est un troglodyte, ça, c'est un pic noir.
Ah oui, parce que c'est pas un pic vert, c'est un pic noir.
Et le pic noir aussi, ouais.
Et quand on voit le serpentin de vol d'oiseaux, je ne sais pas si ce sont des étourneaux ou d'autres oiseaux, on entend le bruit de la mer.
Ouais, et ça c'est pareil, on a posé les micros près du dortoir de ces pinsons du Nord. En fait, ce sont des pinsons qui font aussi comme les grues, ils nichent en Scandinavie, et en hiver, quand c'est très rigoureux, ils viennent jusqu'à chez nous. Et là, on avait un dortoir d'un million d'oiseaux. Donc ça fait, comme vous dites, des murmurations comme les étourneaux, extraordinaires. Des dessins dans le ciel. Et en effet, il y a une séquence qui est assez impressionnante là. Ouais.
On voit aussi des lynx, ce qui n'est pas si courant, les lynx feules. Il y en a un qui se tire à un moment, pardon pour l'argot, avec un cadavre.
Oui, de chamois qu'il a tué.
Ah voilà, oui. Ouais. Et les lynx feules, et c'est comme une sorte de miaulement amplifié.
Exactement, ouais, mais très fort, hein. Ça déchire le silence de la nuit. Hein. On l'entend, on peut l'entendre à 2 kilomètres, hein, sans problème. Et des feulements de lynx, et ça c'est en mois de mars-avril, où c'est la saison des amours, donc les mâles font toujours le même tour et vont feuler souvent sur des points hauts pour que ça résonne partout dans la forêt. Donc là c'est pareil, il faut être dehors, il faut dormir, pas sous tente, hein, vraiment bivouaquer pour écouter. Et après on arrive à localiser les lynx. Ouais.
Il y a des scènes quasi fantastiques, une biche et son faon d'une grâce absolue, des oies dans la nuit qui donnent une atmosphère fantastique. Et puis, il y a un moment, un combat de cerfs qui ressemble à de l'escrime.
Oui.
Vous avez peur à ces moments-là, ils peuvent vous charger aussi.
Bah, c'est impressionnant. C'est impressionnant quand ça se passe à quelques mètres de nous. Hein. Ouais, vraiment. Peur, pas vraiment, parce que c'est pareil, c'est comme le loup. Le cerf, il va pas nous shooter gratuitement comme ça. Il va garder ses distances. Mais là, ils étaient tellement dans une espèce de paroxysme de leur excitation. Là, ils étaient à fond. Ils défendent aussi leur place de brame, quoi. Et donc là, ils avaient occulté un peu notre odeur et notre présence. On était toujours sur ce filet de camouflage. Et ça peut être impressionnant, et c'est ce que j'ai voulu essayer de refaire à ces moments hyper intenses, un peu puissants, et en même temps cette poésie de ces deux biches. Moi j'adore ce plan, c'est presque un tableau, rien que sans les animaux c'est déjà magnifique, avec ces sons en effet de sarcelles qui passaient, des oies, avec il y avait un écho incroyable, c'est ce qui se passe la nuit, et juste là, ces deux biches qui traversent, qui viennent fendre l'image, et ça c'est ce qui me fait tellement de bien, plus que de bien en fait. Je suis vraiment un peu en éveil. Enfin, c'est des instants qui sont tellement puissants pour moi que j'avais envie de les remettre au cinéma, quoi. C'est ça la magie du cinéma.
Quand l'homme explique ce qui se passe dans la nature, faut être prudent, parce que c'est pas quelque chose de mathématique, pas quelque chose, tu vois, de calculé. C'est le sauvage.
Ah, écoutez, non.
J'ai entendu une espèce de souffle.
Et j'ai entendu quelque chose. Non, pas vous.
Attendez.
Est-ce que c'est la chouette du Lot ou la chouette de Thelma? Je sais pas.
Si, là.
Là. Ouais. C'est magique.
Tu veux te réveiller dans la nuit pour écouter les chouettes?
Ah non, moi je veux dormir là.
Ok.
Ça, c'est l'extrait qui m'a le plus fait rire de votre film, Vincent Munier, puisque c'est votre fils, à ce moment-là, en a marre d'avoir un père et un grand-père qui veulent tout le temps se lever en pleine nuit pour aller observer des animaux. Et il vous dit non, là, ça suffit.
Mais clair. Non, mais c'est sûr. Non, mais on est un peu excessif. Hein. On est un peu possédé par...
Parce que vous y allez à quelle heure? Comment ça se passe?
En fait, il n'y a pas d'heure. Tellement, il se passe des choses tout le temps. Et... Surtout à l'aube, au crépuscule, à l'heure bleue, enfin, et puis la nuit, quand la nuit est claire, ça dépend des conditions météo. Dès qu'il y a du vent, souvent, là, on peut dormir, on peut se reposer. On entend moins, et puis les bêtes n'aiment pas trop quand il y a du vent ou quand il y a de la tempête. Mais là, des nuits claires, c'est génial, parce qu'on arrive à localiser où sont les chouettes, et là, en l'occurrence, c'était les chouettes de Tegmal, mais échevêchettes.
Les chouettes restent stoïques sous la pluie, c'est assez impressionnant.
Oui.
Ah elles ont un ramage waterproof.
Oui. Ah elles sont bien équipées. Et puis, mais c'est ça que je trouve fascinant. Hein. C'est que nous, on a toujours des gros vêtements, des gros Gore-Tex et des trucs. Et elles se. C'est même les petits oiseaux. Vous avez vu le troglodyte à un moment qui fait 9 grammes. Mais lui, tu te dis, mais comment il fait, même la nuit froide à moins 20, là, où est-ce qu'il est? Il doit se trouver des petites cavités, et c'est ce qu'on met en avant dans le film. Il faut des forêts vivantes, c'est-à-dire avec des arbres morts, avec des cavités.
Parce qu'ils nourrissent la terre.
Exactement, ouais.
Alors, parfois, vous menez l'enquête et votre père sait reconnaître les selles de tous les animaux. Mmh. Et alors, j'ai appris que une crotte de tétra pouvait embaumer un appartement, puisque lui, il les ramassait et les mettait sous le radiateur pour que ça embaume.
Pour les sécher, pour embaumer la pièce.
Le pain, il a résine.
Mais oui, il mange que des aiguilles de pain, résine, sapin. Et donc, ça sent très bon. Ouais. Et puis, c'est vrai que, comme on le disait, le côté pisteur, que ce soit des traces ou les crottes, ça nous indique tellement de choses. C'est hyper précieux. Je suis désolé, mais c'est vrai qu'une crotte, pour nous, c'est...
C'est un trésor.
C'est un trésor. Ça nous indique plein de choses sur son alimentation, sur sa fréquentation des endroits, enfin plein de trucs.
le standard de ce soir, c'est les Rolling Stones, She's a Rainbow. Elle est un arc-en-ciel et il est temps, Vincent Munier, de découvrir votre choix musical. Soil de Cosmo Sheldrake, featuring la nature tout simplement. Vincent Munier, une explication.
Bah, en fait, c'est une découverte assez récente et je le trouve tellement talentueux. Et c'est un jeune anglais, hein, une trentaine d'années. Et il mélange les sons nature avec sa chanson. Et je trouve que c'est très beau, très mélodieux. J'aime beaucoup. Et là, en l'occurrence, il parle de l'humus, du sol. Voilà, c'était plutôt en lien avec la fin du film, en tout cas. Même tout le film, ce que dit mon père, quoi.
Votre père est un peu poète.
Ouais, c'est...
Il a des formulations très poétiques. On est dans ce qui s'en va.
On est dans ce qui s'en va, mais... ouais, c'est ça, c'est un côté assez positif de... Moi, je voulais un peu évoquer sa disparition. C'est peut-être un peu comme pour me préparer à sa mort, en gros. Et il l'amène avec des mots qui sont justes. Et quand on est dehors, on se rend compte... que la mort fait partie de la vie, quoi. Et sans mort, il n'y a pas de vie. C'est une espèce de renouvellement sans cesse. Ça peut paraître un peu naïf, mais c'est une réalité. Et moi, j'aime bien cette image de ce grand sapin squelettique, là, plein de mousse, sur lequel vient pousser les petits sapins, les petits arbres. Ils plongent leurs racines dans leurs ancêtres. Voilà, on est dans ce qui s'en va, ouais.
Нарубите веток.
Это как?
Ручками, ручками. Иван, держи лодку носом к волне, бестолочь.
Vincent Munier, il nous reste 2 minutes et j'ai 167 questions à vous poser. Je vous ai demandé une découverte pour les auditeurs et là on entend le retour d'Andrei Zviagintsev.
Zviagintsev, ouais.
Alors un petit mot dessus ou sur les livres Bord et la bête de Lune, vie main qui vous accompagne par ses textes dans l'exposition qui est en ce moment à Strasbourg, ou L'arbre d'or de John Vaillant.
Bah oui, c'est plein de choses en lien avec un peu la forêt, avec la transmission, on va dire. Pourquoi Zviagintsev? Bah c'est parce qu'il est joué un choc. J'ai trouvé ce film tellement puissant, il m'a vraiment retourné. Il y a une histoire de transmission, mais aussi la photographie était très très belle. Et il termine ce film en plus. Il faut pas dévoiler, mais vraiment il est terrible. Il m'a bouleversé et par des très belles images en noir et blanc. Et moi qui suis, ça m'a réconcilié un peu avec la photographie. Pourtant, parce que je m'en échappe un peu, j'ai trouvé ça tellement beau. Et Lune, vie de main, ben, c'est vraiment un coup de cœur d'une écriture hyper sensible, hyper presque sensuelle sur la forêt. Et on parlait aussi de remettre un peu les animaux au même niveau que les hommes et tout. Et là, elle en parle tellement bien. Et j'ai trouvé ce film, ce livre, qui devrait peut-être être un film, très, très en lien avec notre film, justement, ouais, vraiment. Et L'arbre d'or, John Vaillant, je suis en train de lire Le Tigre de ce même auteur qui est journaliste pour le New Yorker. Et L'arbre d'or, c'est une très belle histoire sur les forêts de Colombie-Britannique. Et tout ce qu'on fait en ce moment, c'est plus journalistique, c'est moins poétique, mais ça donne un état des lieux de là où on en est et qui est assez puissant.
Si je vous demandais, Christian Bobin, pour commencer, de nous dire vraiment ce que vous faites.
J'essaye de respirer. J'essaye d'être vivant, j'essaye. C'est-à-dire que je rate, j'échoue. J'essaye d'élargir le sentiment de la vie qui est en moi, comme je pense il est en chacun. Et puis j'essaye de revenir à des choses nobles que parfois l'on abîme. Parce que c'est vrai que je suis l'oiseau qu'on met dans la cage de l'émerveillement. Mais permettez-moi d'ouvrir avec mon bec la porte et de m'envoler.
C'est une cage, l'émerveillement ?
Oui, c'est une cage, parce que toute définition est une cage. Toute définition. Et l'émerveillement, si vous voulez, c'est une des choses les plus... C'est une des fleurs de cette vie. Je suis d'accord avec ça. Et la joie. ou à un degré moindre le bonheur. Mais je pense que ces choses-là, elles ne peuvent pas faire l'objet d'une méthode, d'une technique. Je crois que vous en serez d'accord. Et elles ne peuvent pas même être recherchées.
Eh bien, on entend Christian Bobin dans La Grande Librairie en 2019 au micro de François Bunel. Je sais que vous l'aimez beaucoup, Vincent Munier. Et donc, on est déjà en retard, mais donc, est-ce que vous auriez un titre à nous recommander, soit de Christian Bobin, soit de n'importe qui d'autre? Juste le titre et je rends l'antenne.
Non, tout Bobin. Je pense qu'il faut tout lire Bobin, tellement sa la justesse de sa poésie est importante.
Merci beaucoup. Merci Vincent Munier.
Merci Eva.
Votre film Le Chant des Forêts sort ce mercredi au cinéma. Votre exposition Regardez l'art et la nature est visible au Musée des Beaux-Arts de Strasbourg jusqu'au 27 avril. Deux beaux livres accompagnent ces actualités. Je renvoie les auditeurs vers votre site internet avec plein de magnifiques choses à offrir ou à s'offrir, parmi lesquelles la magistrale monographie Vincent Munier, 35 ans de photographie, parue chez Cobalan. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Franck Olivard, à la programmation musicale Juliette L'Orphelin, à la technique Laurent Baudouin. À demain.